c'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, retour sur la crise au Burkina Faso, analyse, réaction et interrogation de citoyens burkinabés. Nous entendrons aussi les réactions régionales comme celle du Mali. Enfin, inquiétude pour la rubrique santé, Sanofi Pasteur annonce l'arrêt de son traitement anti-venin de référence. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus. Restez avec nous. Retour donc aujourd'hui sur la crise au Burkina Faso. Si certains ont été surpris par cette crise, d'autres l'avaient anticipée. En juin dernier, à 4 mois des élections présidentielles, le think tank International Crisis Group avait publié une analyse de la situation politique mettant en avant les risques pris par le gouvernement de transition quand ils ont exclu les représentants de l'ancien pouvoir des prochains scrutins. J'ai joint l'un de ces chercheurs spécialisés sur le Burkina Faso. Pour elle, cette crise était hautement prévisible. Cynthia Ohayon.
Oui, elle était prévisible et elle n'étonne pas les observateurs. Donc nous, à International Crisis Group, on avait publié un rapport d'abord en février 2015 et ensuite en juin, où on disait d'abord que la question du RSP allait être la question la plus délicate et la plus difficile à gérer sous la transition, qu'elle risquait fortement de créer des troubles. Fin juin, on avait publié un rapport qui avertissait des dangers du code électoral qui avait été voté en avril pour exclure les représentants de l'ex-majorité des élections. En fait, la crise qui se passe, c'est une conjonction de facteurs. Il y a eu beaucoup de frustration qui s'est accumulée dans l'armée et parmi les représentants de l'ancienne majorité. Et il y a une collusion qui s'est formée en fait entre ces deux forces. Mais effectivement, il fallait s'y attendre parce qu'on a exclu des élections des gens qui n'ont jamais accepté qu'ils ont perdu le pouvoir, des gens qui ont dirigé le pays pendant 27 ans. Forcément, les empêcher de reprendre le pouvoir par les urnes, aller les tenter, les pousser vers des stratégies de contestation, de déstabilisation, de sabotage. Et on l'avait dit clairement, en fait, dans nos rapports. Donc, il ne faut pas être surpris, malheureusement.
Est-ce que cette crise peut être rapidement résolue pour vous? Et qu'en est-il des élections qui sont prévues pour le 11 octobre prochain?
On sent qu'on est parti pour une crise qui va durer. Ça va être difficile de trouver un compromis pour résoudre la situation. Donc, les élections sont prévues dans moins de 4 semaines. Ça paraît quasiment impossible. Bon, sauf retournement bien heureux de situation, ça paraît quasiment impossible que les élections se tiennent à temps. Et puis surtout, il y a pas de consensus sur quelles élections on va tenir. Et donc, on voit mal comment on pourrait organiser une élection dans ces conditions. Et bon, toujours très confus. Mais on n'est pas du tout dans un climat qui permet l'organisation d'une élection. Donc il va falloir retourner à la table de la négociation, mais ça va être certainement très laborieux.
Les acteurs de la société civile vont-ils pouvoir être assez forts pour vous, pour quelque part faire contrepoids?
Alors c'est une bonne question. En tout cas, bon, au Burkina, on a une société civile qui est quand même mieux organisée, mieux structurée, est plus puissante que dans un certain nombre de pays dans la région. On a vu quand même le rôle qu'elle a joué dans l'insurrection populaire qui a fait tomber Blaise Compaoré et qu'elle a joué ensuite pendant la transition. Alors, bon, ça a aussi des côtés négatifs. Et là, on voit que bon, les leaders de la société civile sont en train d'appeler à la mobilisation, à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois dans les rues, dans les quartiers à Ouagadougou. Donc, c'est pas évident que la société civile arrive par la simple mobilisation populaire, à renverser la situation. Après, il y a évidemment d'autres facteurs qui rentrent en compte, le rôle de la communauté internationale notamment. Mais du côté de la société civile, ce n'est pas évident.
Cynthia Ohayon, analyste du Burkina Faso pour l'International Crisis Group. Mais que pensent les citoyens burkinabés de cette crise? Écoutons quelques impressions au micro de l'un de nos correspondants au Burkina Faso, Zoumana Wonogo.
Est-ce qu'on peut raser la tête de quelqu'un derrière lui? Le peuple burkinabé n'a pas été associé. Les autorités que nous reconnaissons n'ont pas été associées. Et même le président n'a pas été associé. Et alors, on entend des déclarations à gauche, à droite. Vraiment, hein, ça nous fait honte. Alors, on ne comprend pas les réactions de la CEDEAO. Ou bien c'est un syndicat des chefs d'État ou bien des gens qui ont des comptes à régler avec le Burkina Faso. La solution sera trouvée bientôt. Mais vous allez voir que les protagonistes, là même, ils vont se lasser, ils vont laisser... C'est eux-mêmes qui vont se trucider dedans. Ils déclarent qu'il y a eu quoi dedans et qu'il y a un mort, non. C'est eux qui vont fomenter leur coup dedans et puis ils vont se corriger dedans. Nous avons espoir que ça va aller.
Nous attendons seulement une solution qui sera trouvée. Que ce soit de la CEDEAO ou bien que ce soit parmi leurs échanges, nous attendons seulement une bonne solution, c'est tout. Dans tous les cas, qu'il y ait confrontation, il n'y ait pas confrontation. Nous voulons qu'il y ait une solution heureuse seulement. Mais si on peut éviter la confrontation, c'est encore mieux.
Burkina Faso est un pays souverain. Abuja n'a rien à voir à décider. Il ne peut pas décider pour nous. On ne peut pas s'en sortir. Une concertation de Burkinabé. On ne va pas discuter avec quelqu'un qui a une arme. L'essentiel que la démocratie soit rétablie.
Et nous, on est fatigués de eux.
Ils n'ont qu'à faire pardon seulement. Ils n'ont qu'à s'entendre, tout ça. Et c'est mieux. S'ils s'entendent, c'est mieux pour les Burkinabés. Mon souhait, c'est qu'ils s'entendent. Ils ne veulent pas la guerre dans ce pays-là.
Le coup d'État au Burkina est survenu à la veille de la publication des résultats d'enquête visant à lever le voile sur le mystère entourant les circonstances de la mort de Thomas Sankara. Circonstances troublantes ou véritable coïncidence, à la tête du coup d'État, le général Gilbert Diendéré, qui était à l'époque le responsable de la sécurité et des commandos de militaires. Maître Prosper Falama, un des avocats de la famille de Thomas Sankara, joint à Ouagadougou, réaffirme l'engagement de la partie civile à l'aboutissement de la vérité.
Je voudrais vous dire si c'est un pur hasard, une pure coïncidence ou un calcul quelconque venant de la part donc, on va dire des dignitaires du RSP, dont certains sont d'une façon ou d'une autre fortement impliqués dans l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Mais nous sommes dubitatifs sur cette coïncidence, sans pouvoir affirmer quoi que ce soit avec certitude. Mais dans tous les cas, ce qui est important pour nous, c'est qu'il faudra un jour, que ce soit maintenant ou un autre jour, mais plutôt vaudra que plus tard, que ce dossier puisse aller de l'avant afin que nous sachions le contenu des expertises qui ont été réalisées sur le reste du capitaine Thomas Sankara.
Le général Gilbert Diendéré devrait être auditionné prochainement sur cette affaire. Et à l'époque, il était le chef des militaires et des commandos qui assuraient la sécurité.
Dans tous les cas, ce combat pour la justice pour Thomas Sankara et ses compagnons assassinés le 15 octobre 1987 a commencé depuis belle lurette. Et quoi qu'il advienne, je ne pense pas qu'un simple coup d'État, excusez-moi de parler ainsi, pourrait arrêter l'élan des Burkinabés vers une justice pour Thomas Sankara et ses compagnons. Quoi qu'il advienne, que le général Gilbert Diendéré soit aujourd'hui au pouvoir par un coup de force ou je ne sais quelque autre situation ne pourrait empêcher que ce dossier connaisse une suite un jour ou l'autre. Il faut savoir que, de toutes les façons, les résultats de cette expertise réalisée sont toujours disponibles, et seront toujours disponibles, puisque c'est des experts, notamment étrangers qui l'ont réalisé. On pourra toujours avoir recours à eux, si besoin en est, pour avoir, des copies de ces conclusions. Donc, je n'ai aucune crainte quant au résultat. Ce qui nous importe plutôt, c'est que la justice puisse, sur son cours normal, et que cette situation ne puisse rien changer absolument à la recherche des assassins Thomas Sankara et de ses compagnons.
Vous n'aviez pas encore des bribes du contenu de ce rapport?
Non, pas du tout. Mais de toutes les façons, je pense qu'il y a une certitude qu'il m'étonnerait que ce rapport vienne infirmer, c'est que le capitaine Thomas Sankara a bel et bien été assassiné par ses bourreaux en 1987, suite donc à des tirs d'armes à feu. Ce qui n'a d'ailleurs jamais été contesté, ni par Blaise Compaoré lui-même, ni par le général Gilbert Diendéré, aujourd'hui donc à la tête du Burkina par un coup de force. Donc nous attendons avec sérénité les conclusions de ce rapport.
Maître Prosper Falama, joint à Ouagadougou par Eric Manirakiza. Le coup d'État au Burkina Faso est condamné par la classe politique malienne et certaines organisations de la société civile. Mais la situation au Mali reste préoccupante, car les attaques terroristes continuent, tout comme les combats entre les milices pro-gouvernementales de la plateforme et la coordination des mouvements de l'Azawad. Récemment, la CMA a annoncé son retour à Anéfis, ce qui n'est pas sans inquiéter Bamako, qui demande un retrait des rebelles dans cette localité. Le point avec Kassim Traoré.
Elles sont nombreuses les formations politiques et associations de la société civile qui ont condamné le coup d'État au Burkina Faso. Oumar Mariko, président du parti Sadi.
Nos sorts sont liés par le voisinage et nos sorts sont liés parce que nous sommes tous de l'Afrique. Ce qui arrive au Burkina Faso, au peuple burkinabé, c'est quelque chose qui peut arriver au peuple malien. Et encore une fois, l'impérialisme français vient de frapper nos voisins. Il est là au Mali, terrible, dans la nébuleuse de la communauté internationale. Il est revenu au Burkina Faso après être sorti par la petite porte. Il est revenu par la fenêtre cette fois-ci avec des gens qu'il a contribué à mettre au pouvoir au Burkina Faso pendant plus de 27 ans.
L'ancien président de l'Assemblée nationale du Mali, au cours d'une conférence débat, s'est attaqué à la gestion de l'aménagement au Mali. Aliou Niounjalo a salué le courage du peuple burkinabé.
Spontanément et héroïquement, le peuple burkinabé est fait face aux baïonnettes, à la mitraille. Donc nous sommes contre la gestion de deux poids, deux mesures pratiquées par l'aménagement au Mali. Et nous avons souvent affirmé que le Mali ne se pose pas en demandeur qu'on peut traiter après d'ingrat face à la situation que nous vivons aujourd'hui. Parce que le Mali est un État membre des Nations Unies, un État souverain dont les fils et les filles sont morts sur les champs de bataille du monde. Donc ce que les autres États membres des Nations Unies font au Mali, ce n'est que rendre au Mali ce que le Mali a fait ailleurs.
Le gouvernement multiplie les actions pour une meilleure application de l'accord de paix. C'est pourquoi il y a eu une rencontre du comité de suivi. Amadou Konaté, ministre malien chargé de la reconstruction des régions nord du Mali.
Nous savons une chose, c'est que tous les signataires sont intéressés à la bonne mise en œuvre des accords. Ils nous l'ont réaffirmé chaque fois qu'on s'est retrouvés. Mais ce qu'il y a, c'est que peut-être que tous les signataires ne sont pas préparés au même niveau à une bonne mise en œuvre des accords. Certains d'entre eux, hélas importants, sont distraits par des préoccupations qui, s'ils les mettaient de côté pour s'occuper de la mise en œuvre de l'accord, se verraient résolu de la meilleure manière.
Refusant tout débat sur le processus de mise en application de l'accord d'Alger, la CMA annonce qu'il s'est installé à Anéfis et environ. Assibit Ag Akado, président du mouvement.
Nous avons demandé que l'État prenne ses responsabilités parce que même dans les résolutions des Nations Unies, il est écrit noir sur blanc que la prééminence du règlement de cette crise-là, la prééminence de toute action dans ce Mali-là revient aux autorités du Mali.
En attendant, les attaques terroristes continuent. Deux policiers et deux civils ont été tués par des hommes armés non identifiés qui étaient sur des motos dans le cercle de Koro, région de Mopti, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Rubrique santé pour finir l'émission. Le laboratoire français Sanofi Pasteur a annoncé que le sérum Favafric, un traitement anti-venin de référence, ne sera plus en circulation après 2016 parce que sa production a été arrêtée. Une très mauvaise nouvelle selon Médecins Sans Frontières. Julien Potet, le référent maladie négligée pour la campagne d'accès aux médicaments de MSF, a expliqué pourquoi à Anastasie Tudiech.
Parce que c'est un traitement des morsures de serpents en Afrique qui a montré son efficacité dans différents endroits d'Afrique pour les principales espèces de venin qui causent des envenimations sévères sur le continent africain, en tout cas en Afrique subsaharienne. Donc c'est un bon produit et donc son arrêt était très préoccupant.
Comment fonctionne un sérum anti-venin dans le corps ?
Donc le sérum anti-venimeux, il est administré en général par voie intraveineuse et il est constitué d'anticorps qui permettent de neutraliser les principales toxines et les principaux enzymes du venin qui sont en circulation.
Et un sérum anti-venin peut agir au bout de combien de temps ?
Pour certaines espèces pour lesquelles la progression de la maladie est assez rapide, parce que les venins contiennent des toxines qui sont extrêmement rapides en termes d'activité, il faut parfois l'administrer au plus tard, une ou deux heures après la morsure. Donc le plus tôt on agit, dans les quelques heures qui suivent la morsure, le plus de chances on a que le sérum puisse agir efficacement.
Julien Potet, combien ça coûte un sérum anti-venin ?
Ça coûte entre 40 euros, $40 par ampoule jusqu'à 100-120 dollars par ampoule pour les produits les plus chers. En général, pour neutraliser une morsure vraiment bien, il faut une dose initiale de 2 ampoules si possible. Mais vous voyez que pour les populations les plus pauvres, hein, notamment les fermiers et les paysans qui sont souvent mordus dans les pays en développement, ce coût peut être exorbitant s'il n'y a pas un subventionnement et un appui pour accéder aux produits.
L'arrêt de ce sérum, est-ce que ça n'est pas l'occasion d'explorer de nouvelles pistes, l'accompagnement par exemple des tradis praticiens qui sont les plus proches de ces fermiers que vous décrivez ?
Alors d'abord, il y a des alternatives. Hein. Il y a d'autres traitements antivenimeux, d'autres sérums antivenimeux qui sont disponibles sur le marché africain. Il existe 2 types de produits. Il existe des produits qui ciblent un faible nombre d'espèces, plus faible que l'ensemble des espèces couvertes par le FAV Afrique. Donc ces produits-là sont des bonnes alternatives dans certaines sous-régions de l'Afrique subsaharienne. Il existe d'autres produits qui ont à peu près le même profil que le FAV Afrique, qui couvrent beaucoup d'espèces. Mais pour ces produits-là, aujourd'hui, les tests qui ont été faits sur ces produits sont insuffisants pour avoir des preuves vraiment formelles qu'ils peuvent être aussi bons que le FAV Afrique.
Que recommande MSF ?
Ce qu'on recommande d'abord, c'est au ministère de la Santé de ces pays-là, oui. Et aussi aux bailleurs de fonds internationaux, de subventionner l'accès aux antivenins. C'est un produit qui sauve des vies. Il est impératif d'avoir un mécanisme de subventionnement pour que les populations payent très peu ou pas du tout le coût de ce traitement. Et il faut que les populations locales soient bien informées de la présence et la distribution des antivenins dans les différents hôpitaux de la région.
Julien Potet, le référent maladie négligée pour la campagne d'accès aux médicaments de Médecins sans frontières. C'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. D'ici là, retrouvez-nous sur Twitter et Facebook, VOA Sahel+. Nous restons au Burkina Faso pour finir en musique avec Koto Brawa et son Naoum. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Yeah, like that. Batera kamana, asume jasa una.